Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, cette semaine, on reçoit celui qui était co-porte-parole du Salon de l'auto de Montréal, mais que les gens ont peut-être moins vu parce qu'on pense tous à Bertrand Godin quand il est question du Salon de l'auto. Par contre, ils l'ont vu longtemps, et particulièrement ma génération, à Musique Plus, c'est là qu'on l'a découvert. Puis
ça a duré si longtemps que ma génération aussi, on l'a connu comme ça, Denis Talbot.
Ah oui, t'écoutais ça en reprise, toi.
Mieux connu sous le nom de Monsieur Net.
C'est ça. Alors, Denis Talbot qui est avec nous. Salut, Denis.
Salut, ça va bien? Content d'être là, les gars. Puis ça fait longtemps que je fais ça, effectivement, puis c'est toujours drôle parce qu'il y a des gens qui vont m'associer aux aventures du Grand Talbot où j'essayais toutes sortes de folies.
Ouais.
Je me pitchais en bas des buildings. C'est là que j'ai rencontré Bertrand Godin, d'ailleurs, puis on y avait gagné le Grand Prix cette année-là à Montréal. Fait que c'était vraiment cool. Ça a été notre première rencontre, là.
Okay.
Et il y en a d'autres qui vont m'associer, justement, comme Germain l'a fait à Machinette. Puis là, c'est la nouvelle génération, puis d'autres m'associent à Twitch. Parce que Twitch, peu de gens connaissent ça pour l'instant, les plus vieux, mais c'est une station de télé, disons. Un diffuseur qui est sur le web également, puis je suis là-dessus, ça fait 7 ans, puis ça va super bien.
Et on a vu les constructeurs automobiles prendre ce virage-là, un peu de la diffusion en ligne. On peut penser à la dernière génération de la Honda Civic qui a été dévoilée sur la plateforme Twitch. Antoine, qui était dans tous ses états parce qu'il ne savait pas ce qu'était la plateforme Twitch à ce moment-là, mais heureusement, les enfants à la maison ont pu t'expliquer ce que c'était.
Ben, en fait, c'est parce que la Civic a toujours suivi sa clientèle. Alors, les gens qui achetaient des Civic au début des années 80, qui étaient dans la vingtaine, ben aujourd'hui, sont dans la cinquantaine et continuent d'acheter des Honda Civic. La voiture a vieilli avec sa génération initiale. Et là, ben on fait un pas pour rajeunir la clientèle, mais c'est pas un pas, là, on saute de 4 étages. Tu sais, parce que entre Canal 10 puis Twitch, il y a comme un monde. Fait que je me suis dit, on aurait pu faire les choses de façon progressive, du moins.
Ben là, ce qu'on veut, c'est des clients, hein, des clients potentiels.
Ouais.
Alors, ce que tu fais, plus ça va, plus les voitures ont l'air des gros iPhones, tu vois, avec des roues. Là.
Ouais.
Fait que tu vas chercher exactement la niche de gens que tu aimerais éventuellement qu'ils deviennent soit de nouveaux clients ou redeviennent des clients chez vous en leur offrant la technologie dans les autos. Il y en a plein, vous le savez, les gars. Mais Twitch, il ne faut pas se laver, c'est pas juste pour les enfants. Hein. C'est absolument fou. Il y a 13 millions de viewers par jour, là, cette affaire-là. C'est fou.
Les gens ne font pas partie.
Non, ben c'est d'aller chercher ce qui t'intéresse là-dessus parce que tu as vraiment toutes sortes d'affaires. Autant d'automobiles que du tatouage en passant par la cuisine. Tu sais, c'est fou.
Bon, tu me parles de dernière technologie, Denis. Ben, on va arriver dans le vif du sujet parce qu'évidemment, de la technologie dans les voitures aujourd'hui, il y en a à outrance. Il y en a au point où la façon de faire le métier de chroniqueur automobile n'a pas le choix de changer parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste analyser un moteur, un comportement, une suspension. Il faut analyser ce qu'il y a dans un écran, comment la voiture est connectée. Donc, c'est tout un nouveau boulot qu'on doit faire, nous, et qui ne sont pas nécessairement les plus grands experts en la matière. Ce pourquoi, en partie, on voulait discuter avec toi, parce que t'es au fait des plus récentes technologies que les constructeurs vont intégrer dans leurs véhicules aujourd'hui. Peut-être la première question que j'aurais pour toi d'abord, qu'est-ce qui t'a impressionné particulièrement comme dernière technologie qui a été lancée dans l'industrie automobile?
Tu sais, je fais souvent le parallèle avec les téléphones intelligents et les voitures. C'est pas pour rien. Tu sais, un des trucs qui coûte très, très cher avec les voitures électriques, c'est tout ce câblage dont on a besoin pour se brancher à la maison. Et de dire, OK, genre, ça va me prendre un 7 pieds de câble, un 10 pieds de câble. Ça, c'est du cuivre. Le cuivre n'est pas achetable. Puis là, quand j'ai commencé à lire là-dessus, puis j'ai vu qu'on arrivait avec des technologies qui ressemblaient étrangement à la recharge sans fil des téléphones. C'est-à-dire
ouais.
que par Wi-Fi, tu vas te dire, OK, charge ma voiture. Il n'y a aucun fil apparent. C'est réinstallé dans ta maison. C'est sûr que les coûts, c'est risque d'être assez faramineux pour le moment. Mais à un moment donné, ça va se démocratiser. Et cette recharge sans fil-là, si on pousse ça encore plus loin, et si on habitait dans un climat qui était plus favorable que le climat canadien, que le québécois, on pourrait éventuellement penser à des recharges lorsqu'on roule constamment, sans s'en rendre compte sur des autoroutes. Qu'est-ce qui arriverait avec nos cartes de guichet? Probablement qu'elles seraient toutes démagnétisées. Mais quand même, je trouve ça intéressant.
Et notre cerveau aussi, d'ailleurs.
Oui, effectivement. D'ailleurs, tu sais, je suis un grand fan de techno, puis je me demande à quoi auront l'air les prochains conducteurs et conductrices dans 10 ans.
Si on peut encore les qualifier comme ça.
Oui, est-ce que c'est
ce seront des utilisateurs de véhicules plutôt que des conducteurs, j'ai l'impression, là.
C'est exactement ça.
La SAC va émettre des permis d'utilisation.
Mais ça. Soit en arrière, c'est correct.
C'est ça.
Bon, mais tout ça, quand on extrapole, puis on regarde les bouchons de circulation, puis tout ça, tout ce qui arrive, puis on voit les tests qui sont faits. Il y en a eu récemment en Allemagne avec des voitures, tu sais, qui se conduisent seules. Ils ont simulé vraiment l'heure de pointe avec beaucoup de voitures qui roulaient en circuit fermé. Ouais. Et des voitures qui attendaient pour rentrer. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bouchons. Les voitures sont d'une courtoisie incroyable entre elles.
Ouais.
Ça laisse passer et ça rentre. On prévoit que le camion peut rentrer. On laisse la place. Il n'y a pas de ralentissement majeur. Ce ralentissement-là se calcule tout seul. C'est merveilleux.
Même si t'es en Yaris et que c'est un gros Range Rover noir qui est en avant de toi, il n'y a pas de problème, c'est courtois quand même?
Oui, paraît-il. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai une Prius, OK? C'est pas
bon.
De ma faute. Non, sérieusement, j'adore la Prius. Puis les gros camions là qui te poussent dans les fesses, j'arrive toujours à la lumière en même temps qu'eux autres et ça me fait rire. Parenthèse de vie.
Oui, oui. Écoute, c'est le fun parce que là, tu nous parles évidemment de conduite autonome. C'est un sujet dont on parle énormément et j'en discutais avec mon collègue Marc Lachapelle au Guide de l'auto récemment pour en arriver à la conclusion que la conduite autonome qu'on nous annonce, qu'on nous vante depuis 5 ans, c'est probablement le plus gros échec technologique qu'on peut pas retrouver sur un véhicule parce qu'encore aujourd'hui, les constructeurs tentent d'innover, tentent d'arriver avec des technologies.
Et le résultat n'est pas concluant.
Ça marche pas, ça marche pas. J'ai essayé le Super Cruise, je conduis un Pathfinder avec le Pro Pilot Assist Navilink cette semaine. J'ai eu une Outback avec le système EyeSight tout récemment. Ça fonctionne pas. C'est un système...
Bon, mais c'est pas pratique en ce moment. Ça marche tout croche. Est-ce que tu as eu des near miss? Est-ce que tu as eu des situations où tu as passé proche?
Non. Mais à l'inverse, je te dirais que j'ai eu des situations où il n'y avait rien et le véhicule a réagi pour rien.
Voilà. Donc, on va être dans la surprudence, là. Et ce que je trouve un peu dommage, tu as mentionné le système Super Cruise, Antoine. Contrairement à Tesla, qui va le système va s'adapter à son environnement, à la route, et va lire la route au fur et à mesure, le système Super Cruise de General Motors, ben il faut que la route soit cartographiée, donc qu'elle fasse partie du système de GM. Et si elle n'en fait pas partie, ben désolé, mais ton option à quoi, 4 ou 5 000 $, ben tant pis, tu peux pas l'utiliser. Reviens sur la 30. Tu sais, c'est à peu près ça là.
Excellent point. Puis ça aussi à la qualité de la mise à jour des GPS qui arrivaient de base dans les voitures il n'y a pas si longtemps. Et souvent, tu te ramasses dans un champ où il y a un nouveau développement qui n'existe même pas dans ta carte. Fait que tu arrives dans le champ, puis ton ordinateur, il sait plus où t'amener. Mais je pense que la comparaison qu'on fait souvent, c'est « Regarde, on m'a dit ça, moi. C'est le fun. Les avions ont ça, Denis. Ils rentrent le code, pilote automatique. » Un avion, ça vole en ligne droite. Une voiture, ça se peut qu'il y ait des courbes. Ça se peut qu'il y ait des obstacles. Ça se peut qu'il y ait des arrêts. Tu sais, le couloir aérien qu'on a, il nous est réservé à nous, puis on vole en ligne droite. Oui, il n'y a pas de danger. Il y a des systèmes de détection qui sont implémentés dans les autos, tout le kit. Mais l'hiver, une bonne grosse bourrasque de vent, ça a 20, là, qui se fait lever une espèce de banc de neige qui semble ressemble à un obstacle. Mais j'ai comme l'impression qu'on va se ramasser le nez dans le dash.
Ben le problème, c'est que des fois, il suffit d'une feuille qui vole au vent pour que ça arrive. Prend pas grand-chose. Puis en plus, ben tu sais, tu vas être d'accord avec moi, du moment qu'il y a un peu d'intempérie et pas besoin qu'il fasse moins 20, ben ces systèmes-là fonctionnent plus du tout. Alors
donc ça fonctionne dans des environnements de laboratoire, parfait. Dans des environnements parfaits où il ne pleut pas, il ne neige pas, il ne vente pas.
Ouais, parce que tu mentionnes même Tesla, Denis, t'as sûrement déjà essayé la technologie de conduite autonome de Tesla. T'en as pensé quoi?
Moi, j'ai été épaté parce que c'était le soir, on était dans le quartier industriel à Boucherville, on va aller essayer ça. J'ai embarqué, j'ai commencé à rouler lorsque je suis arrivé sur le bord, une espèce de voie de service. C'était merveilleux, on a pris l'autoroute, elle a clignoté, elle a fait ses affaires tout seul. ben, à un moment donné, elle te rappelle toujours de mettre les mains sur le volant, ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Puis tout d'un coup, ça a arrêté, j'ai pas compris pourquoi. J'ai probablement que la peinture sur le bord de la route secondaire où on était commençait à être usée.
Non, Elon Musk voulait aller se coucher, c'est pour ça.
Probablement. Mais il paraît-il qu'il a engagé un paquet de jeunes enfants qui jouent dans des jeux et ça contrôle nos voitures également. Non, non, mais blague à part, c'est une belle voiture qui est bourrée de technologie, mais pour le moment, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. Là, on tente de combiner le satellite avec le LIDAR, avec l'espèce d'œil qui regarde tout le temps. Ce combiné-là est intéressant. Mais encore une fois, d'implémenter ça dans les voitures, de lire ça en temps réel et d'ajuster ça à sa conduite puis à la conduite des autres. J'ai hâte de voir si on va arriver à faire ça éventuellement et nous offrir une solution qui va être pratique.
Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourra avoir une conduite sur nos routes 100% autonome, sans problème de légifération? Parce qu'évidemment, ça aussi, ça fait partie de la question. C'est-à-dire que si moi, Antoine Joubert, je t'assis dans un véhicule conduite autonome et qu'il survient un accident, ben est-ce que c'est le constructeur automobile ou le passager du véhicule qui est responsable? Bref, est-ce que tu crois un jour que cette technologie-là va être à point et utilisable à 100%?
Dans un monde réel et utopique, je te dirais oui, si tout le monde est sur le même système. Si tout le monde est dans le même écosystème, puis tout le monde utilise la même technologie. Que si on a de la misère à s'entendre, on a eu de la misère à s'entendre sur le VHS et le bêta. T'imagines dire à l'industrie automobile, on veut avoir un système, l'établir. Et, bon, je pense pas voir ça de mon vivant. Je pense qu'éventuellement, il y a des technologies qui vont peut-être se raffiner. Est-ce qu'on mettra des bornes dans le mobilier urbain pour aider justement à l'orientation de ces véhicules-là?
Ouais.
C'est des dépenses, c'est un paquet de trucs. Est-ce que les voitures vont se parler entre elles pour dire hey, « Écoute, là, va pas sur Saint-Laurent, c'est bloqué. » Tu sais, les voitures taxi, par exemple. Imagine-toi un écosystème fermé comme des voitures de taxi.
Mon moteur est plus gros que le tien. Ouais.
C'est ça. Fait que, tu vois, imagine-toi que si ça jambe à quelque part, que les voitures se parlent entre elles, puis tout ça. Oui, tout ça est merveilleux. Dans les films de science-fiction, on le voit, mais pour l'instant, on dit, il y a loin de la coupe au lièvre.
Quand j'imagine la période de transition, parce que ça pourra pas arriver du jour au lendemain où on va dire, à partir du 1er octobre, les conducteurs auront plus le droit de conduire et toutes les voitures vont être autonomes. Forcément, on va avoir une période où des voitures autonomes, complètement autonomes, côtoieraient des véhicules conduits par des êtres humains. Donc, juste de gérer ces deux environnements-là, c'est pas nécessairement évident et ça doit pas être facile à programmer, là.
Ben, c'est ça, parce que l'humain est difficilement prévisible dans ses actions. De rajouter cet élément-là qui est en quelque sorte le maillon faible de l'équation, ça fait en sorte que ton système est pas parfait. Puis même dans la perfection, il y a de l'imperfection. Alors j'imagine que de rajouter un humain dans cette affaire-là, ça vient mettre comme l'espèce de grain de sable dans l'engrenage qui va venir faire débalancer tout ça. Mais écoute, c'est de la gestion, c'est beaucoup de trucs, c'est beaucoup de prévision futuriste un peu. Souviens-toi, en l'an 2000, on était supposé de voler. je sais pas où on s'en va exactement avec tout ça. Je sais que les gens travaillent énormément sur les nouvelles façons de mouvoir ces véhicules-là. Est-ce que la conduite autonome, la recherche est aussi intense qu'elle l'a déjà été il y a peut-être 3, 4, 5 ans?
Oui, ça, c'est une bonne question aussi, parce qu'on a peut-être l'impression que, justement...
On déchante,
oui, exactement.
On a entendu parler en tabarouette quand le monsieur s'est tué dans Tesla, hein, voyez-vous. Puis il y a beaucoup de lobbying également qui va se faire de la part des compagnies qui ne veulent rien savoir de ça pour l'instant. C'est politique, c'est social, c'est de demander à des gens qui ont de la misère à rouler à une vitesse raisonnable, souvent, de rentrer dans les rangs. C'est tough, ça.
C'est ça. On est loin, on est très, très, très loin du but.
Sur un autre volet, Denis, je suis curieux de connaître ton avis. Bon, une question et une sous-question. Qu'est-ce que tu penses des données pavés tactiles qui contrôlent les systèmes d'infodivertissement des véhicules d'aujourd'hui? Je vais te donner un exemple, un Acura RDX. On va avoir l'écran à la droite, sur la planche de bord. Et pour le contrôler, ben on va avoir un pavé tactile sur la console. Plutôt que d'avoir un écran tactile, on va retrouver ça chez Lexus aussi, bien qu'on soit dans une transition pour rendre ces écrans-là tactiles. Est-ce que toi, tu es en faveur de ces écrans-là avec un pavé tactile ou le bon vieil écran tactile lui-même, c'est préférable?
Moi, je préfère, je vais être peut-être un peu réactionnaire, mais le bon vieux Python qui m'offre une interaction directe. Écoute, je fais des tests, on appelle ça du UX, là, je fais des tests pour des produits et souvent, on arrive avec des produits qui ressemblent étrangement au iPhone et iPad de ce monde, avec t'as pas de rétroaction quand tu pèses dessus. Si tu veux changer ta radio, ben normalement, faut que tu quittes les yeux ou à moins d'avoir un écran display, un écran affichage peut-être autre, pour voir tes stations de radio. Mais il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir une rétroaction quand tu fais une action. Et là, plus ça va, on s'en rend compte dans le domaine technologique, c'est que on ramène les pitons tranquillement pas vite. Les bons vieux boutons qu'on tourne. Pis
physique, ça, là.
Exactement. Donc, il y a une technologie qui existe qui fait une légère rétroaction sur ton doigt pour te montrer que tu es bel et bien sur la bonne icône, sur la bonne patente. Ça fait que ça, c'est intéressant. Ça fait comme une vibration en dessous de ton index lorsque tu conduis et puis tu sens que t'es dessus. Est-ce que c'est aimé? Dans les tests qu'on a fait, je vais peut-être vous dire ça, mais les gens préfèrent d'avoir une rétroaction plus physique, quelque chose qui leur permet vraiment de savoir s'ils sont au bon endroit sans avoir à quitter la route des yeux.
Mais tant mieux.
Je trouve ça intéressant. C'est pas parce que ça fonctionne dans une technologie qu'on doit absolument l'adapter dans les voitures ou ailleurs. Tu sais, il y a des trucs qui sont, me semble, plus faciles à faire lorsqu'on a un piton physique.
Tu retrouves aujourd'hui dans des véhicules des écrans où, ben, de toute façon, tu as des constructeurs automobiles qui font une lutte à savoir qui aura le plus gros écran l'année prochaine.
Et le nombre d'écrans aussi, pas seulement le plus gros, la quantité à bord.
Chez Cadillac, tu as plus de 75 pouces d'écran dans un Escalade. J'ai essayé récemment un Jeep Grand Wagoneer avec 8 écrans dans ce véhicule-là. Calcule ça comme tu voudras, ça n'a juste aucun bon sens.
Alors, t'as deux yeux.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Ça va arrêter où, ça, cette histoire-là?
Ça va arrêter quand on va se rendre compte qu'il y en a un qui a pogné le champ parce qu'il jouait, il checkait pas ses affaires. J'en vois souvent dans la circulation, à un moment donné, qui regarde des films pendant qu'il conduit. Il y a un peu de cocologie là-dedans aussi, si le conducteur doit faire sa part. Mais effectivement, ça peut être extrêmement distrayant. J'adore les pitons, j'adore les affaires, j'adore tout ça, ces trucs-là. Quand tu as une voiture qui conduit tout seul, dans un monde hypothétique, t'as le meilleur des mondes, la voiture t'envoie des informations, tu peux lire ton journal, mais c'est pas toi qui conduis, c'est la voiture qui, t'es là, t'es assis, t'es passager, tu peux regarder tes codes de la bourse à gauche, Netflix à droite, puis jouer à un jeu de console dans le centre, si tu veux. Mais pendant que tu conduis, c'est distrayant. Et ça, encore une fois, on m'a rappelé une chose, la question dans un brainstorm qu'on a fait. En fait, c'est un focus group. Ouais, mais écoute, les pilotes d'avion, ils ont bien les écrans, eux autres, en avant d'eux. Ouais, si on parle des patates avec des patates,
c'est ça.
Pas la même affaire. C'est pas pareil. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. J'aime ça, l'information qui est divulguée, tout ça. Mais est-ce que c'est une source de distraction? Oui.
Je me permets de te dire que j'étais récemment dans le trafic. Ça arrive à peu près jamais. J'étais stationné sur l'autoroute 13 et le VUS qui était en avant de moi avait 3 écrans de cinéma abaissés à partir du pavillon. Et je te le jure, c'est un film que je connaissais, que je reconnaissais. Et parce que je le connaissais assez bien, parce que moi aussi, j'ai eu des enfants, j'entendais les paroles à travers mon pare-brise et la vitre, la lunette arrière du camion en avant, puis j'écoutais un film.
C'est plus dur de lire les sous-titres, par exemple.
Oui, mais tu sais, c'est te dire à quel point, si moi, j'étais capable, dans mon véhicule, de voir le film de l'autre véhicule, je fais juste m'imaginer le niveau de distraction puis l'intensité de diffusion qu'il y avait dans ce gros camion-là. Je me souviens même plus du modèle, c'est ça le pire.
J'étais concentré sur le film, vraiment.
Mais
est-ce qu'il meurt à la fin?
Le personnage
dans le film, pas le conducteur.
Aucune idée.
Mais effectivement, c'est une sorte de distraction incroyable. Écoute, même souvent, quand on est parti en camping, nous autres, cet été, j'avais deux enfants en arrière, puis là, c'est ça qu'ils jouaient dans le système de son. Puis à un moment donné, il y a une chanson, puis chantait.
Bon, c'est ça.
Là, tu dis, t'as le dormir. Imagine-toi le regarder en même temps. En tout cas, moi, c'est peut-être parce que, je sais pas, je suis peut-être un TDAH, mais je suis pas capable de faire les deux en même temps. C'est compliqué, c'est complexe, ça peut être dangereux, surtout lorsque tu conduis à haute vitesse sur les autoroutes.
Un petit peu.
Depuis quelques années, Denis, un de tes rôles, c'est d'être porte-parole du Salon international de l'auto de Montréal. Il n'y a malheureusement pas eu d'édition 2020 pour des raisons bien connues et hors de notre contrôle à tous. Mais il semble être prévu qu'il y aura une édition en 2021. Est-ce qu'on a une idée à quoi ça ressemblera?
Tu veux dire en 2022?
2022, oui, pardon. Oui, oui.
Il n'y a pas de problème. J'avais compris. Mais écoute, oui, il y aura un salon. Est-ce que je peux vous en parler? Non, pas pour le moment. Mais je sais qu'on travaille fort. Les organisateurs travaillent fort, justement, à mettre sur pied avec les normes sanitaires, tout ça. C'est tout un casse-tête, je vous le dis. Autant pour nous que pour les concessionnaires, pour les fabricants également qui doivent trouver une façon de se déplacer. Quelle forme ça aura? Est-ce que ça sera une forme hybride? Est-ce que ça sera de la forme conventionnelle, c'est-à-dire se déplacer, ce que j'aime beaucoup parce que ça, c'est le fun de voir les véhicules puis s'asseoir dedans, puis j'adore ça, moi c'est ma job, je suis pas un gars de moteur, les gens, parce que je connais les chars, je connais pas les voitures, je connais pas les moteurs, je connais ça comme n'importe qui, mais je suis pas un spécialiste du moteur, mais par contre, m'asseoir, regarder l'ergonomie de la voiture, trouver ça le fun, de dire, regarde, t'as l'affaire, ça c'est le fun, ça c'est bien, de voir apparaître les, tu souviens toi quand on avait apparaître les caméras de recul, dans les gros modèles de luxe, c'était fantastique. L'année d'après, Hyundai arrive, bang, il y en a partout. T'sais, de voir ces affaires-là, puis être capable de voir ce qui s'en vient aussi, c'est ça qui me branche, moi. Mais cette année, est-ce qu'on va voir ça au salon d'auto de façon physique ou en version hybride? Le temps sera nous le dire, mes amis.
Moi, je me permets de peut-être te poser la question différemment, excuse-moi. J'ai parlé, moi, à des gens qui travaillent directement chez des constructeurs automobiles, qui, évidemment, ont vu leur budget publicitaire ou de promotion gonfler l'année passée parce qu'il n'y a pas eu d'événementiel. Et ils se sont rendus compte qu'en utilisant une partie de cette même enveloppe budgétaire-là pour faire des événements ciblés ou mettre davantage de publicité sur des réseaux sociaux, le retour sur investissement était de beaucoup supérieur. Alors, il y en a qui m'ont carrément dit... Pour nous, constructeurs automobiles au Canada, un salon d'auto, ça n'a plus de logique. On n'a pas l'intention de retourner là. Mais si les concessionnaires, eux, veulent se joindre ensemble, créer un petit conglomérat de je ne sais pas combien de concessionnaires et y aller par eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui devaient débourser des sommes démentiel pour être présent là-bas.
Oui,
parce qu'il ne faut pas oublier un truc aussi. Je me permets de mentionner que de louer un emplacement au Palais des congrès avec tout ce que ça implique de...
Pendant presque un mois, du début de l'organisation jusqu'à la fin du démontage, là, ça s'étire sur presque un mois.
Ça implique la location des accessoires que tu es obligé de prendre là, payer le gardien de sécurité qui travaille là-bas, etc., etc. Ça coûte tellement cher. Les constructeurs automobiles ont fait, ben non, cette dépense-là ne vaut plus la peine. Est-ce que tu penses qu'une organisation comme le SIAM est capable de réussir à convaincre à nouveau des constructeurs automobiles qui ont déchanté de revenir faire un tour au salon? C'est pas évident, ça.
Moi, je pense qu'effectivement, ça coûte cher, c'est sûr. Ça coûte extrêmement cher. Puis cette maudite pandémie-là nous a permis donc d'explorer de nouvelles avenues. On est devenu très créatifs.
Ouais.
Autant dans le monde des constructeurs que dans un autre monde que dans lequel je gravite, c'est-à-dire le monde du jeu vidéo.
Ouais.
C'était la même chose. Les gros salons coûtaient des millions. Un kiosque, là, ça, pour 3 jours, 4 jours, c'était 14-15 millions de dollars, tu sais, pour accueillir des gens, pour venir faire un tour, tester tes jeux. C'est un peu la même chose qui se produit. Donc, on s'est rendu compte qu'avec moins de cash, on pouvait arriver à créer des événements qui centralisait la plupart des journalistes qui n'étaient pas éparpillés, pas obligés de partir à courir, aller à gauche et à droite pour couvrir certains événements de certains autres constructeurs. Mais connaissant les gens du SIAM, je sais qu'ils sont quand même très créatifs et je pense que la formule qu'ils vont nous proposer risque d'être intéressante parce que nous aussi, on peut s'adapter. Comprenez-vous?
Oui, absolument.
Et l'autre donnée, c'est que, le salon de l'auto est un outil marketing pour les constructeurs automobiles dans le but de vendre des voitures. Mais en ce moment, on fait face à un problème de pénurie. Les cours de concessionnaires sont vides. Donc, est-ce que c'est pertinent de dépenser d'importantes sommes pour vendre des voitures qu'on n'a pas finalement, là?
Les pièces, il en manque, c'est fou. Par contre, on peut peut-être, en focalisant l'attention sur telle journée, un participant, un fabricant ou un autre, on peut parler de ce qui s'en vient au niveau technologique, les avancées au niveau des moteurs. Vous avez la chance...
Pour en faire une vitrine, là.
Exactement, faire une espèce de vitrine pour en présenter. C'est sûr que de faire ce qu'on a déjà fait, c'est sécurisant parce qu'on sait comment ça marche. Mais d'arriver dans une nouvelle formule qui est quand même nouvelle et inconnue pour les gens qui vont travailler là-dedans, ça risque d'être un challenge pas mal intéressant. Je suis pas mal sûr que les gens du CIAM vont relever le défi.
Et puis, j'ajouterais aussi que si tu obliges des concessionnaires qui sont en compétition à travailler ensemble, là aussi, il y a un défi parce que dans la grande région métropolitaine notamment, tu as des gros groupes de concessionnaires qui ne sont pas nécessairement les meilleurs amis du monde et qui n'auront pas le choix que de se jumeler pour une possible association.
C'est de mettre un peu d'eau dans leur gaz.
Oui, c'est ça. C'est vraiment pas évident comme formule, en espérant bien sûr qu'on trouve une solution, parce que on s'en est rendu compte au Salon du véhicule électrique la semaine dernière, on s'ennuie des salons, les gens étaient heureux d'être présents, malgré ce que ça impliquait de se déplacer dans ce salon-là où la construction bloquait à peu près tous les accès au stade olympique. Ça ne pourra jamais être pire qu'au Palais des congrès, Marc Bain. Mais bon. Écoute, en terminant, Denis, on peut t'entendre où, on peut te suivre où, que fais-tu maintenant? Parce que tu me parlais de Twitch tantôt. Désolé de ne pas être abonné à ça, mais je sais que tu es ailleurs aussi, là.
Ah, écoute, je suis à Planète Techno. On parle bien sûr de jeux vidéo, de technologie à Explorant. Twitch, effectivement, c'est ma plateforme en ce moment. Je diffuse sur Facebook, un peu comme tu fais. Je me suis rendu compte également que sur Facebook, les gens s'ennuient. Ils veulent en savoir davantage sur la techno. Je le vois dans tes lives, toujours plein de monde qui ont plein de questions à te poser. Ben, moi, je vis la même chose, mais au niveau techno puis jeux vidéo aussi également. Donc, c'est le fun de voir ça. Puis, je me suis monté un studio fou. Là. Ça fait 7 ans que je roule chez nous. J'ai 9 caméras d'installer. Avant la pandémie, les gens s'assoyaient, venaient jaser de jeux vidéo, de techno chez nous. Mais avec la pandémie, on a changé notre fusil de bord. On s'est dit, garde, moi aussi, je vais m'adapter, je vais aller sur le web. Fait que, mettons que tu veux faire une entrevue avec moi, on l'a déjà fait d'ailleurs, Antoine, et on jase avec les caméras, tout ça, on enregistre ça, puis ça peut donner une émission qui est pas mal cool. Puis les gens sont habitués à ce format-là maintenant. Même, je peux prendre quelqu'un qui est sur Teams, puis jaser avec quelqu'un sur Zoom, ce qui se faisait pas avant. On s'est raffiné, on a développé de la technologie, qui un jour, je vais peut-être mettre ça sur le marché. On est en rodage en ce moment, mais ça sonne super bien. Fait que peu importe de quelle plateforme tu me parles, moi je peux te mettre en onde en 1080p, même en 4K, on est prêt. Faut s'adapter ou mourir.
En ce que Denis nous mentionne, Germain, oui. Et notre cellulaire fixé dans la grosse brune, il y a un monde de différence. Alors, ça serait, j'irai voir ça, un de ces quatre, Denis, ton installation, histoire de m'intimider encore davantage. Merci énormément d'avoir pris le temps, Denis. Et puis, évidemment, on invite les gens à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Puis en attendant, en espérant te retrouver au Salon de l'auto d'ici quelques mois.
Merci, Denis.
Merci. On va se retrouver, c'est sûr. Attention à vous autres. Merci.
Ça marche. Bye-bye.
Salut.